Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les mythes de la Grande Armée » est un ouvrage collectif dirigé par Thierry Lent et Jean Lopez, consacré à la déconstruction de plusieurs idées reçues sur la Grande Armée napoléonienne et, plus largement, sur l'épopée impériale. Publié chez Perrin, le livre s'inscrit dans une démarche d'histoire critique qui confronte la légende, la propagande et les simplifications tardives aux sources historiques. L'objectif n'est pas de réhabiliter Napoléon par principe, mais de réexaminer des affirmations devenues familières, comme le mépris supposé du progrès, le mythe du soldat porteur d'un bâton de maréchal, ou encore certaines visions caricaturales de la guerre, de l'Angleterre et du coût humain de l'Empire. En réunissant plusieurs spécialistes, l'ouvrage propose une lecture plus nuancée de l'armée, de ses cadres, de ses contraintes matérielles et de son inscription dans les rapports de force politique et économique du temps. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, déconstruire les légendes héritées de la propagande impériale, anglaise et royaliste. Le cœur du livre consiste à montrer que l'image de la Grande Armée ne s'est pas construite uniquement par l'expérience militaire, mais aussi par une forte stratification de récits postérieurs. Thierry Lenz et Jean Lopez partent de la légende noire et de la légende dorée pour examiner comment certaines formules ont fini par passer pour des évidences. Le livre s'intéresse ainsi aux idées reçues sur Napoléon, sur ses soldats et sur la guerre elle-même, en rappelant que la mémoire napoléonienne a longtemps été modelée par les mémorialistes, par les adversaires politiques de l'Empire, et par une tradition historiographique souvent répétitive. Cette méthode a un intérêt précis, elle oblige à distinguer ce qui relève du fait, de l'interprétation et de la construction symbolique. L'ouvrage ne se contente donc pas de corriger quelques erreurs isolées. Il démontre que l'histoire de la Grande Armée est aussi une histoire de récits concurrents, où la vérité doit être reconstruite à partir de sources et non de slogans. Deuxièmement, repenser le rapport de Napoléon au progrès, à l'innovation et à la modernité. Un des apports marquants du livre est de contester l'idée selon laquelle Napoléon aurait été hostile au progrès ou fermé aux innovations techniques. Le cas du sous-marin de Fulton, souvent invoqué comme preuve de son conservatisme, sert ici d'exemple emblématique. L'ouvrage invite à replacer l'épisode dans son contexte politique, militaire et technique, au lieu d'en faire une anecdote psychologique simpliste. Cette démarche a une portée plus large, car elle interroge la manière dont on juge un chef d'État à partir d'un petit nombre de scènes célèbres. En réalité, la Grande Armée et l'appareil impérial ont dû composer avec des transformations concrètes dans les domaines de l'organisation, de la logistique, de l'administration et de la guerre de masse. Le livre montre ainsi que la modernité napoléonienne ne se réduit ni à un culte du génie personnel, ni à une opposition stérile entre tradition et progrès. Il pousse le lecteur à voir Napoléon comme un stratège attentif aux possibilités de son temps, mais soumis aussi à des contraintes opérationnelles et politiques très fortes. Troisièmement, nuancer le mythe du soldat héroïque et de la méritocratie militaire parfaite. L'ouvrage revient sur l'une des images les plus durables de l'Empire, celle d'une armée où chaque soldat aurait eu un bâton de maréchal dans sa giberne, symbole d'une méritocratie totale. Sans nier l'existence d'ascensions remarquables, il montre que cette représentation masque la réalité d'une hiérarchie exigeante, d'une sélection sévère et d'une discipline constante. La Grande Armée n'était pas un simple espace d'égalité des chances. Elle fonctionnait avec ses règles, ses filtres sociaux, ses réseaux de protection et ses différences de carrière. Cette mise au point est importante parce qu'elle évite deux excès symétriques, la glorification naïve d'une armée parfaitement ouverte et le dénigrement simpliste d'un système entièrement verrouillé. Le livre souligne aussi la diversité des comportements des soldats, leur endurance, leur débrouillardise et leur capacité d'adaptation sans transformer ces qualités en vertus abstraites. En ce sens, il offre une lecture plus concrète du monde militaire impérial où l'héroïsme existe, mais cohabite avec la fatigue, la contrainte, l'apprentissage et les limites structurelles de l'armée de campagne. Quatrièmement, réexaminer le coût humain des guerres napoléoniennes sans céder aux chiffres slogans. Le livre s'attaque également à l'expression des millions de morts, souvent utilisée comme condamnation globale de Napoléon. Plutôt que d'accepter ce chiffre comme argument définitif, il invite à réfléchir aux conditions de production des pertes, à la distinction entre combat, maladie, campagne prolongée et effets cumulatifs de la guerre de masse. Cette approche est essentielle, car elle déplace la discussion du terrain moral absolu vers celui de l'analyse historique. Le lecteur comprend alors que les guerres napoléoniennes ne peuvent être jugées correctement sans tenir compte des logiques européennes de l'époque, de la durée des conflits, des coalitions adverses et des contraintes de recrutement et de ravitaillement. Le livre ne cherche pas à minimiser les souffrances, mais à replacer la violence dans un cadre explicatif plus rigoureux. Cette nuance change profondément la lecture de l'Empire, elle empêche de réduire la période à une comptabilité polémique et oblige à examiner comment la guerre, la puissance politique et la société se sont mutuellement alimentées. C'est un point fort de l'ouvrage, car il rend l'histoire plus intelligible sans l'édulcorer. En dernier lieu, relier la stratégie militaire aux réalités économiques, logistiques et maritimes de l'Empire, l'un des intérêts majeurs du livre est de ne pas isoler la grande armée de son environnement matériel. Les auteurs examinent des thèmes comme le blocus continental, le financement des guerres, la capacité de l'Empire à soutenir des campagnes prolongées ou encore les perceptions de la puissance britannique. Le texte rappelle que les succès et les échecs napoléoniens ne peuvent être compris sans la logistique, les ressources fiscales, les circuits d'approvisionnement et le rapport de force avec la mer. Cette dimension est décisive, car elle empêche de faire de Napoléon un pur génie tactique détaché des contraintes concrètes. Le livre montre que l'armée est aussi une machine économique, dépendante du territoire, de l'administration et des flux commerciaux. Il interroge ainsi le mythe d'Albion inexpugnable et les représentations simplifiées de la supériorité maritime anglaise, en les traitant comme des objets d'histoire plutôt que comme des certitudes. En reliant le champ de bataille à l'économie de guerre, l'ouvrage donne une vision plus complète du Premier Empire, où la stratégie militaire ne peut jamais être séparée du monde matériel qui la rend possible. En conclusion, les mythes de la Grande Armée s'adressent d'abord au lecteur qui s'intéresse à Napoléon, au Premier Empire et à l'histoire militaire, mais aussi à tous ceux qui veulent comprendre comment se fabriquent les récits historiques. Il sera particulièrement utile aux passionnés d'histoire, souhaitant dépasser les formules toutes faites, aux étudiants cherchant un cadre critique solide et aux lecteurs curieux qui veulent distinguer la mémoire collective de l'analyse fondée sur les sources. Ce qui distingue cet ouvrage de beaucoup d'autres livres napoléoniens, c'est son angle de déconstruction systématique au lieu de raconter une nouvelle épopée. Il revisite les idées reçues une à une en les soumettant à une lecture collective et spécialisée. Cette méthode donne au livre une valeur à la fois intellectuelle et pédagogique. Elle permet de mieux comprendre la Grande Armée comme institution militaire, sociale et économique, tout en montrant pourquoi certaines légendes ont eu une si longue postérité. L'ouvrage se démarque ainsi par sa capacité à corriger sans simplifier et à nuancer sans diluer son propos. Si vous souhaitez soutenir Thierry Lenz, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.